Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse aux disparitions forcées ou involontaires, et ce à l'occasion d'une récente réunion de la 3e commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a examiné la question au siège de l'ONU à New York. Pour nous en parler, Bernard Duhem, il est président du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, mais aussi enseignant à la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Bernard Duhem, vous êtes donc le président du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. C'est un groupe de travail qui travaille de concert donc avec les Nations Unies et avec le comité sur ces mêmes questions. Vous êtes venu briefer notamment la 3e commission de l'Assemblée Générale sur le travail que vous menez, un travail qui est assez large. Aujourd'hui, les disparitions forcées et les disparitions involontaires, c'est quoi? Parce que finalement, c'est un sujet qui est relativement peu médiatisé et peu connu du grand public.
En fait, les disparitions forcées, c'est le phénomène de la capture par des autorités étatiques d'une personne, puis ensuite la négation de la détention de cette personne par les mêmes autorités étatiques. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, en fait, qui a connu plus de visibilité dans les années 70-80, quand on se souvient là, du phénomène des disparitions forcées en Amérique latine, l'opération Condor, etc. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on est en mesure de documenter qu'il se produit partout, dans toutes les régions du monde. Ça touche différents groupes, ça touche des problèmes liés à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre le crime organisé. C'est aussi une question parfois de répression à l'endroit d'opposants politiques. Ça touche évidemment souvent des questions liées à la corruption des agents étatiques. Mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé un peu partout dans le monde. C'est juste que parfois, on a de la difficulté à le percevoir parce qu'on le qualifie d'une façon particulière de disparition forcée ou involontaire, ce qui est une terminologie un peu parfois obscure, mais qui est une réalité très courante que dans plusieurs endroits, dans plusieurs contextes, et malheureusement encore très présent aujourd'hui et qui devrait ne pas exister. On le mentionne depuis la création du groupe de travail en 1980, et malheureusement, c'est encore très présent dans toutes les régions de la planète.
Alors, lors du point de presse, vous disiez que justement, c'est très difficile de documenter le nombre exact de disparitions, que votre groupe notamment est saisi de certaines demandes, de certaines requêtes, mais que l'ampleur du problème est bien plus grand. On estime à combien aujourd'hui le nombre de personnes qui disparaissent de façon forcée ou involontaire?
Le nombre de cas qui nous sont rapportés au groupe de travail, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, dans la mesure où, comme c'est un phénomène qui est clandestin par nature, c'est très difficile de savoir ce qui se produit dans les faits. Premier obstacle. Le deuxième obstacle, évidemment, c'est le fait que les victimes, les familles des victimes, qui sont elles-mêmes aussi évidemment des victimes de ce phénomène, ont la difficulté à le documenter lui-même, ont la difficulté aussi à le dénoncer, y compris à le dénoncer aux institutions nationales ou internationales. L'accès à la justice est donc un enjeu important. Et la terreur que ce phénomène occasionne chez les membres des familles, en fait, lorsque on s'intéresse à l'histoire des disparitions forcées, on se rend compte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime nazi, il y avait des mesures formelles qui avaient été adoptées pour terroriser les populations dans des pays occupés, en utilisant la disparition forcée dans l'optique justement de terroriser les proches, les familles, pour qu'elles cessent toute forme d'opposition à l'occupation. Donc, c'est clair qu'il y a un impact de terreur sur ces victimes, et ça a donc un impact sur les dénonciations. Pour revenir à votre question, vous parlez de chiffrer le tout. Depuis notre création, le groupe de travail a reçu un peu plus de 55 000 cas. Certains de ces cas ont été fermés, c'est-à-dire qu'on a obtenu des informations de la part des autorités étatiques ou des sources sur le lieu de détention de la personne, sa mise en liberté ou, malheureusement, dans plusieurs circonstances également, le lieu où est la dépouille de la personne. Là, on parle d'environ 45 000 cas qui continuent d'exister, qui sont encore dans notre base de données. Donc, mais encore une fois, ça, c'est des informations qui nous sont soumises dans des circonstances particulières. Depuis 1980, puis il y a des situations où les gens ne sont tout simplement pas en mesure de le dénoncer. Dans notre base de données, on n'a que quelques centaines de cas en provenance de pays qui sont déchirés par des conflits armés. C'est clair que ces chiffres-là ne représentent pas la réalité, alors que dans d'autres pays qui sont aujourd'hui en paix ou en transition. On voit des milliers de cas qui sont encore ouverts. C'est évident qu'il faut être assez prudent avec les chiffres parce que, encore une fois, c'est un phénomène qui est difficile, qui est clandestin, qui implique toutes sortes d'obstacles pour les familles.
Alors vous parliez justement tout à l'heure du fait que toutes les régions sont concernées, tous les continents également. Il y a eu bien sûr l'Amérique du Sud, mais il y a aussi actuellement le Moyen-Orient avec des conflits, je pense à l'Irak notamment ou la Syrie. Alors il y a une ampleur, vous parliez du Mexique notamment, qui est très en pointe en termes de chiffres en tout cas et de disparitions signalées. Est-ce que ça veut dire pour autant que les pays occidentaux, les pays dits démocratiques, est-ce qu'il y a quand même des disparitions également dans ces pays?
Absolument. C'est pas un phénomène qui est propre à des régimes qui sont non démocratiques. Évidemment, on a cette image des disparitions forcées des années 70 et 80 qui visait des dissidents, où évidemment, il y avait un plan orchestré de capture et de détention clandestine des dissidents. Dans un régime démocratique, c'est plus rare qu'il y ait ce type de disparition orchestrée, commandée, etc. Par contre, et comme je rappelle que les disparitions forcées, c'est la capture d'une personne, puis la détention clandestine par les autorités étatiques qui nient sa détention, dans certaines circonstances, y compris dans les régimes démocratiques, mais les autorités nient la détention, parfois parce que ça fait partie d'un programme de lutte contre le terrorisme ou contre le crime organisé, parfois également parce que les disparitions sont faites par des autorités étatiques corrompues sur le terrain qui opèrent avec le crime organisé ou qui opèrent de leur propre chef dans l'optique d'obtenir un avantage, de faire des demandes de rançon, etc. Ceci étant dit, c'est pas parce que ces gens-là n'opèrent pas dans le cadre d'une machination orchestrée du haut de la machine étatique vers le bas que ça n'en fait pas des disparitions forcées. Dans la minute où ces disparitions sont l'œuvre d'agents étatiques, le groupe de travail considère que ça peut constituer des disparitions forcées également.
Alors, au-delà de l'ampleur, au-delà des pays, des continents, le fait de signaler qu'un pays s'est rendu coupable, si vous avez une preuve avérée d'une disparition forcée, est-ce que ça permet de servir de levier pour les disparitions dans ce pays ou dans d'autres pays très proches ou comparables?
Oui, en fait, les États ne veulent pas paraître comme des États qui tolèrent des disparitions forcées. C'est un crime qui est d'une telle cruauté et qui est dénoncé de toutes parts. Il n'y a aucun État qui reconnaît mener des disparitions forcées ouvertement. Et donc, les États sont très sensibles à ça. D'où l'importance, évidemment, qu'on soit très rigoureux dans les données qu'on fournit sur le plan des statistiques, tout ce qui apparaît dans notre rapport annuel à chaque année, dans les annexes, ces annexes qui contiennent toutes ces informations-là et qui permettent à la communauté internationale d'avoir une idée assez claire de qui fait quoi, en d'autres termes. Dans des situations où il y a énormément de disparitions forcées et où ça apparaît dans ces rapports-là, évidemment, les États sont constamment dénoncés pour leur violation du droit international dans ce sens, leur obligation de remédier à ces disparitions, de localiser les personnes, donc de mener des enquêtes, de sanctionner les personnes responsables et aussi de fournir réparation aux victimes. Puis évidemment, comme le crime de disparition forcée est aussi non seulement une violation du droit international et des droits de la personne, donc une violation du droit international qui engage la responsabilité des États en cas de violation. Mais comme c'est également une violation d'une norme de droit pénal international, c'est un crime international au même sens que d'autres crimes qu'on connaît. Donc c'est un crime contre l'humanité dans la mesure où c'est commis de façon massive et systématique dans le cadre d'attaques contre la population civile. Il peut y arriver que la conséquence de l'existence de ces crimes dans un pays puisse générer la responsabilité pénale individuelle de certains individus. Nous avons, dans le cadre de nos rapports annuels antérieurs, d'ailleurs, formulé des recommandations aux États de l'Assemblée générale de s'en remettre au Conseil de sécurité pour renvoyer la situation de disparition forcée en Syrie et en République démocratique de Corée au Conseil de sécurité pour que, donc, le Conseil renvoie cette situation devant la Cour pénale internationale parce qu'il y aurait des allégations sérieuses de crimes contre l'humanité incluant des disparitions forcées. Puis quand on regarde les rapports des commissions d'enquête que l'ONU a mis sur pied pour justement avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans ces deux pays, les deux commissions d'enquête en sont venues à la conclusion que les disparitions forcées étaient menées de nature à pouvoir constituer des crimes contre l'humanité, donc qui pourraient tomber sous la juridiction de la Cour pénale internationale.
Quand les hommes vivront d'amour, de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons mon frère.
Dernière question et presque une double question. Vous parliez tout à l'heure également devant les journalistes de la spécificité de la disparition et de la continuation du crime dans le temps que constitue donc la disparition et en même temps de l'action ou de l'inaction des États. Est-ce que justement la justice a besoin de temps, mais est-ce que la disparition forcée, c'est pas une difficulté supplémentaire et voire un obstacle impossible?
Mais c'est-à-dire que comme c'est un crime qui exige une réponse de la part des autorités, il faut localiser la personne rapidement. Il faut, sans nécessairement remettre la personne en liberté. Peut-être que cette personne a commis un crime, mais dans ce cas-là, elle doit être amenée devant les tribunaux et puis exercer ses droits aux garanties judiciaires, à la protection judiciaire dans un système judiciaire fonctionnel. La détention clandestine et puis les procès secrets sont une violation du droit international. Donc, l'État a une obligation de mettre fin le plus rapidement possible à ces disparitions forcées. Lorsque ce n'est pas le cas, on doit présumer que la personne continue d'être détenue clandestinement jusqu'à ce qu'on ait des éléments de preuve satisfaisants nous permettant de croire que la personne, soit elle a été remise en liberté, soit qu'elle est décédée et que son corps, sa dépouille a été détruite, ou soit qu'il est impossible de localiser la personne suivant une explication qui est convaincante. Prenons par exemple les vols de la mort en Argentine pendant la dictature en Argentine, où on prenait des personnes qui avaient été capturées clandestinement, on les embarquait dans les avions puis on les balançait dans la rivière de la Plata et dans l'Atlantique. On ne sera pas en mesure de retrouver les corps de ces personnes. Mais sur la base des témoignages qu'on a pu obtenir, qui ont permis de documenter ce phénomène et de savoir qui a monté à bord de ces avions, on est en mesure d'avoir une explication assez crédible du sort de ces personnes qui ont disparu. À partir de là, on peut considérer que le cas est éclairci. Ceci étant dit, du point de vue du groupe de travail, le fait qu'une personne soit localisée en détention, le fait que sa dépouille ait été localisée, le fait qu'on ait une information claire quant à sa remise en liberté, etc., le fait qu'on clarifie donc un cas ne met pas fin à l'obligation qu'a l'État de mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé, parce que ça reste un crime. Donc, les personnes qui ont posé ces gestes-là doivent être punis, puis pas exclusivement les personnes qui ont physiquement capturé la personne, mais également toute la chaîne de commandement qui a soit demandé à ce que cette action soit posée, soit qu'ils l'ont tolérée, ou soit qu'ils ont fermé les yeux alors qu'ils auraient dû enquêter, auraient dû sanctionner. Donc, c'est dire la gravité de ce crime. On ne peut pas tolérer que ça se passe, on ne peut pas tolérer que la disparition continue, mais une fois que la disparition est terminé, on doit également enquêter pour que justice soit faite pour les familles, pour les victimes, que la vérité soit éclaircie, que les réparations adéquates soient fournies aux membres des victimes. L'ampleur de ce crime-là dépasse le moment de la capture et de la remise en liberté, évidemment.
Et donc, c'est un travail de longue haleine.
Exactement, puis on salue évidemment le courage, la persévérance des familles des victimes qui, vous en doutez bien, lorsque leurs proches disparaissent, bien souvent abandonnent tout pour se consacrer à la recherche de leurs proches. Il m'est arrivé plusieurs fois dans des missions de rencontrer des mères, des épouses ou des filles qui cherchent leur père disparu, leur mari, leur époux, qui consacrent tout leur temps à ça et qui font preuve d'un très grand courage, qui surmontent des obstacles incroyables, y compris des menaces à leur endroit, à l'endroit de leurs proches, de leur famille, et qui dénoncent ce phénomène, non seulement dans l'optique de retrouver leurs proches, mais aussi pour éviter que ça se reproduise dans d'autres circonstances dans le futur. Donc, évidemment, on salue ce travail de longue haleine des victimes, des proches, des défenseurs des droits humains, et c'est ce qui nous pousse à aller plus loin.
Bernard Duhem, merci. Je rappelle donc que vous êtes le président du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Merci.
Merci à vous.
Voilà, et c'est avec le juriste québécois Bernard Duhem que se referme ce magazine Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.